le savez tous, enfin, du moins je le suppose, donc ces sermons ont été découverts par François d'Olbeau en 1990 dans un manuscrit du 15e siècle qui est conservé dans la bibliothèque municipale de Mayence. Une découverte majeure, extraordinaire, en raison de la qualité de la transmission de ces sermons, qui ont vraiment renouvelé et qui continuent à renouveler notre connaissance de la prédication d'Augustin et plus généralement notre connaissance de saint Augustin. L'édition Princeps a été publiée en 1996. Le volume a déjà été publié dans de nombreuses langues, mais il n'était pas encore publié en français. Et pourtant, ce travail de traduction avait été commencé assez tôt, dès 1996, mais le contexte n'a pas permis en fait d'aboutir à l'époque. Les traductions ont été laissées à des degrés d'achèvement divers. L'annotation n'était pas faite ou très partiellement faite. Et donc, nous avons repris le travail en 2017 autour de François d'Olbeau lui-même et de Martine Dulahaye, qui est aussi présent dans cette salle virtuelle, avec la collaboration de Laetitia Ciccolini, de Jérémy Delmulle et de moi-même, et aussi avec d'autres jeunes chercheurs que nous avons associés à ce travail pour la mise au point des traductions ou le fait de faire ces traductions pour les introductions, pour les annotations. Et donc, ce premier volume, et trois autres suivront, présente une édition qui est encore révisée par François d'Olbeau à la suite de nos discussions, une traduction française qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, et donc des notes complémentaires qui enrichissent le volume. Alors, quelques mots pour la présentation, pour le déroulement de la soirée. Nous commencerons par deux présentations de ce volume sous deux angles différents. D'abord par Michel Fédoux, puis par Nathalie Requin. Ensuite, je donnerai la parole à François d'Olbeau et à Jérémy Delmulle. Et la parole ensuite sera donnée à la salle. Mais en raison de notre nombre et des modalités de cette séance, je pense que le plus simple sera de passer par le fil de conversation et Laetitia Ciccolini fera la synthèse des questions ou relancera les questions de telle façon que nous puissions en tenir compte au mieux. Alors d'abord, quelques mots pour présenter Michel Fédoux. Michel Fédoux est professeur de théologie dogmatique au Centre Sèvres. Il est responsable du département d'études patristiques. Ses publications sont nombreuses. Je n'en retiendrai ici que deux, globalement. Bon, je dirais ces trois volumes autour de la voie du Christ, donc qui étudie tout le développement de la christologie. Bon, à partir de l'Antiquité, et actuellement son travail va jusqu'au 7e et 8e siècle, et d'autre part son travail aussi sur le commentaire d'Origène sur l'Épître aux Romains. Il a contribué au volume de Sources chrétiennes. Alors je le remercie de sa lecture et je lui donne tout de suite la parole pour la présentation. Donc, il faut réactiver ton micro, s'il te plaît, Michel.
Oui. Merci. Bonjour à tous. Je remercie vivement Isabelle Bochet de m'avoir invité à prendre la parole au sujet de ces sermons qui sont présentés ce soir. Le volume qui rassemble ces sermons repose sur une découverte vraiment exceptionnelle que nous devons à François d'Olbeau. Ce volume est aussi le fruit d'un remarquable travail d'équipe. Les divers collaborateurs se sont répartis la traduction et l'annotation des sermons, ainsi que les introductions précédant les sermons et les précieuses notes complémentaires, avec les très riches informations et réflexions qu'elles apportent sur les circonstances des prédications ou sur un certain nombre de leurs thèmes. Il est naturellement impossible de s'arrêter sur tous les sujets qui le mériteraient, tant ils sont nombreux et variés d'un bout à l'autre du volume. Je ferai à titre préliminaire deux brèves remarques de portée générale avant de m'arrêter plus précisément sur quelques apports qui m'ont davantage retenu dans ces sermons. Ma première remarque est que les sermons rassemblés dans ce volume, comme d'ailleurs les sermons au peuple en général, permettent en quelque sorte de saisir sur le vif l'activité du prédicateur Augustin et qu'elle nous en donne une image extrêmement concrète et vivante. Les circonstances elles-mêmes sont restituées avec précision. Par exemple, on apprend que le sermon 2 a été prononcé au lendemain d'une journée au cours de laquelle Augustin avait été chahuté par une partie de l'auditoire et avait dû renoncer à prêcher. Autre exemple, d'après le sermon 5, Augustin avait le dessein d'expliquer un psaume, mais, ayant entendu l'évangile du jour, il se sent tenu de commenter cet évangile. Et il y a une sorte de suspense tout au long de ce sermon, car on se demande si Augustin pourra finalement en venir ou non au psaume, et finalement, il n'en a pas le temps. Ou encore, dans le sermon 10, Augustin s'adresse à ses auditeurs de la manière suivante, je le cite, « Vous avez déjà entendu bien des choses, mais si vous voulez en entendre davantage, écoutez comme si vous commenciez à le faire. Moi aussi, je suis debout quand je parle et je suis fatigué. » Autant de touches, j'en ai relevé simplement quelques exemples, des touches qui nous font percevoir des circonstances très concrètes de tel ou tel sermon et qui rendent directement sensibles à la présence du prédicateur. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces touches si évocatrices du contexte pastoral ou de la posture d'Augustin dans sa prédication ne nuisent absolument pas à la qualité littéraire des sermons, comme j'aurai d'ailleurs l'occasion de le montrer à travers l'autre exemple. Seconde remarque préliminaire, ces sermons permettent de retrouver des thèmes majeurs de la pensée d'Augustin, mais ils montrent précisément par là même que ces thèmes ne sont pas seulement le fruit de la puissante réflexion développée dans les confessions ou dans d'autres œuvres d'Augustin, dans des traités doctrinaux, mais qu'ils ont aussi un enracinement dans la prédication elle-même. Par exemple, le sermon 4 introduit un passage sur les deux cités, Babylone et Jérusalem. De même, le sermon 5 donne lieu à un développement important sur le Christ médecin. Je cite « le Christ médecin prenant en charge ce malade gisant sur le grand lit qu'est le monde entier ». Ou encore, le sermon 8 porte tout entier sur le thème de la confession, qui n'est pas seulement confession des péchés, mais aussi confession de la louange, autre thème essentiel de la pensée augustinienne. Indépendamment même des précisions que ces développements apportent sur les thèmes en question, je dirais que le fait même qu'ils apparaissent dans les sermons est en soi révélateur. Ce fait ne confirme pas seulement l'importance des thèmes en question, il révèle aussi les voies par lesquelles Augustin se trouve conduit à leur faire place dans le cadre même de sa prédication au peuple. Ces préliminaires étant posés, je voudrais attirer l'attention sur trois aspects de la pensée augustinienne dont les sermons se font l'écho et qui me paraissent d'un intérêt tout particulier. Bien sûr, j'ai fait des choix. Premier point, je commence par une question qui a fait l'objet de nombreux débats et controverses dans l'histoire ultérieure, le regard d'Augustin sur les païens, entre guillemets, et ses vues sur l'extension du salut. Deux passages des sermons publiés dans ce volume nous réservent de belles surprises en la matière. Tout d'abord, dans le sermon 6, un sermon qui développe une remarquable réflexion sur le thème de l'idolâtrie, on lit ces lignes très significatives, je cite Augustin, « Nous demandons aux païens, s'ils s'irritent contre nous, de lire leurs auteurs, qu'ils voient si leurs philosophes ont approuvé pour eux les turpitudes des pratiques idolâtriques, s'ils ne les ont pas tournées en dérision, s'ils ne les ont pas interdites, s'ils ne les ont pas incriminées, qu'ils choisissent tous les meilleurs parmi les leurs, et que d'abord ils reconnaissent chez eux leurs vices avant qu'ils ne viennent à la grâce du Christ. Combien de propos chez leurs auteurs, donc chez les auteurs païens, Combien de propos chez leurs auteurs contre les débauchés? Combien contre les prodigues? Combien contre ceux qui dissipent leurs biens pour mériter des statues et qui, pour exister en pierre, consentent à vivre en haillons? Qu'ils lisent donc tout cela chez les leurs. Inutile de vouloir apprendre aussi de nous leur propre littérature, parce qu'il ne convient pas, même s'ils aiment cela, que nous l'enseignions et qu'il serait peut-être plus convenable pour nous de l'oublier. Incitation. On le voit, Augustin ne cède pas à un jugement unilatéral sur le monde païen, mais il attire l'attention sur le fait que les païens eux-mêmes peuvent trouver chez certains de leurs auteurs une dénonciation de l'idolâtrie. Augustin trouve en quelque sorte chez ses auteurs païens comme des alliés au service de sa propre argumentation. Il y a là une forme d'ouverture qui mérite d'être saluée, compte tenu surtout de lectures ultérieures qui ont insisté de façon souvent trop unilatérale sur l'opposition d'Augustin au monde païen, en sa globalité. Une autre forme d'ouverture ressort aussi des vues d'Augustin sur l'extension du salut. Le sermon 5 contient à ce propos un développement important. Ce sermon commence certes par rappeler la parole de Jésus sur sa venue au dernier jour, le grand effroi que cette parole a suscité, la parole « ce sera comme au jour de Noé », etc. Et de là, Augustin en vient à l'antique drame du déluge, mais pour ajouter aussitôt, je cite, « nous avons le temps de nous réveiller, ce n'est pas encore le jour du jugement, ce n'est pas encore le déluge, on continue à extraire de la forêt des bois imputrescibles, l'arche est encore en construction. » Puis Augustin, revenant à Noé, affirme que les contemporains de Noé, s'ils y avaient réfléchi et s'ils avaient changé leur voie, auraient pu précisément échapper au déluge. Et Augustin ajoute, je cite, « en effet, Dieu, qui fut miséricordieux à l'égard de Ninive, ne se serait pas montré cruel envers le genre humain tout entier s'il s'était converti. » Et Augustin rappelle alors que les habitants de Ninive se sont précisément convertis. Et il en induit que les contemporains de Noé auraient pu faire de même en leur propre temps. Ainsi, le rappel de ce qui est advenu dans le passé attire surtout l'attention sur le fait que la perdition n'était pas fatale, la conversion était possible. Et cette conversion a été réelle dans le cas de Ninive, elle aurait donc pu se produire aussi à l'époque de Noé. Et toute l'argumentation d'Augustin vise finalement à convaincre qu'il est possible, qu'il reste possible de se convertir aujourd'hui même. Je cite Augustin, « oui, tant d'années ont passé et l'arche est encore en construction. Noé clame encore, le bâtiment de l'arche clame encore. Rien ne pourra perdre les hommes sinon le manque de foi, qu'ils changent leur conduite, qu'ils croient en Dieu qui promet tant, qui menace tant, qui ne trompe en rien. » Ainsi, on le voit pour Augustin, la méditation sur la parole de Jésus et l'effroi que cette parole a suscité, pour Augustin, cette méditation conduit en réalité à une parole d'exhortation pour le temps présent. Nous sommes bien loin ici d'affirmations péremptoires sur le petit nombre des sauvés, tels qu'on les trouvera en particulier chez Jansénus. La gravité de la parole sur le jugement final n'est certes aucunement occultée, mais toute l'argumentation d'Augustin porte à mettre en avant la possibilité qui demeure de la conversion et la possibilité du salut, pourvu que l'on se convertisse et que l'on croit. J'en viens à une seconde question, ou plutôt un second ensemble de questions, qui me paraît d'un intérêt tout spécial dans ces sermons 1 à 10, tout ce qui a trait à la christologie. Faute de pouvoir évidemment évoquer tout ce qui s'y rapporte, je retiendrai un apport particulièrement remarquable. Cet apport est occasionné par la commémoration de la nativité de Jean-Baptiste. Il s'agit de la méditation du sermon 3 sur le rapport entre le précurseur Jean-Baptiste et Jésus lui-même. Augustin ici développe le paradoxe suivant. Jean est supérieur à tous les prophètes, et cependant, alors même que sa naissance précède celle de Jésus, Jésus est plus grand que Jean. Le paradoxe se récapitule dans des formules très concises, comme par exemple celle-ci, je cite Augustin, « Jésus est homme et le Christ est homme, mais Jésus est seulement homme, pardon, Jean est seulement homme, le Christ est Dieu et homme. En tant que Dieu, il a créé Jean, en tant qu'homme, il est né après Jean. » Le paradoxe qu'Augustin développe s'énonce aussi à travers le rapport entre la voix du Baptiste et le Verbe de Dieu. Je cite Augustin, « La voix est venue avant le Verbe. Le Christ est le Verbe, une parole qui ne résonne ni ne passe, car ce qui résonne et passe, c'est la voix, non le Verbe. » Or, demande Augustin, qu'est-ce qui est premier, la voix ou le Verbe ? Augustin s'engage ici dans une réflexion qu'on pourrait dire anthropologique, incitant ses auditeurs à réfléchir sur leur propre pensée et sur leur propre parole. Je cite Augustin, « Qu'est-ce que le Verbe ? Allons-nous croire encore que le Verbe, c'est ce qui résonne à tes oreilles ? Le Verbe, c'est ce que tu veux dire. Tu as conçu en ton cœur ce que tu vas dire. La pensée que tu as conçue est déjà devenue Verbe en ton cœur. Mais ce Verbe, c'est-à-dire ce que tu veux dire, la pensée conçue en ton cœur, ce que tu as entrepris d'exprimer, tu le connais déjà, il a été dit en toi. Lorsque donc tu auras conçu la chose que tu veux dire, et que cette chose, cette pensée, sera devenue Verbe en ton cœur, tu feras attention à qui tu parles et à qui tu veux la dire. Et si tu vois un grec, tu cherches un mot grec par lequel énoncer le Verbe. Si tu vois un latin, tu cherches un mot latin par lequel exprimer le Verbe. Si tu vois un hébreu, un mot hébreu. Si tu vois un punique, un mot punique, si tu connais ces langues. Mais ce Verbe que tu avais conçu avant toutes les langues n'était ni latin, ni grec, ni punique, ni rien de tel. Augustin nous dit donc, il y a une antériorité du Verbe par rapport à la voix. Le Verbe existe dans toutes les langues, la voix dans une langue déterminée. Et par conséquent, le Verbe est premier, du moins pour celui qui parle, car le Verbe existait en lui avant la voix, tandis que les auditeurs, eux, doivent d'abord entendre la voix avant de comprendre le Verbe, même si la foi leur permet d'anticiper de quelque manière ce qui est dit. Ce développement d'Augustin aide ainsi à comprendre, au moins par analogie, comme diraient les théologiens ultérieurs, le rapport entre le Christ et Jean-Baptiste. Augustin dit, le Verbe, le Christ, a précédé auprès de Dieu, mais chez nous, la voix a précédé pour que le Verbe vienne à nous. Le Verbe était avant la voix, mais pour que le Verbe nous fût dit, Jean a été choisi comme la voix. Mais le texte d'Augustin invite aussi à ajouter, le Verbe qui était avant la voix, doit être aussi après la voix, car non seulement la voix du Baptiste est ordonnée à ce que le Verbe grandisse en nous, plus nous progressons en Dieu, plus diminuent les voix et plus grandit en nous le Verbe, mais, dit Augustin, un temps viendra où nous verrons le Verbe comme il est vu par les anges et nous n'aurons plus besoin de voix comme maintenant. Ce riche développement sur la voix et le Verbe offre ainsi, on le voit, une ample méditation christologique, depuis la considération du Verbe préexistant jusqu'à celle du Verbe tel qu'il sera contemplé face à face au dernier jour, en passant par la révélation du Verbe fait chair dans le temps de l'histoire où il fut annoncé par la voix du Baptiste. Il y aurait sans doute à évoquer d'autres textes qui sont également de grand intérêt du point de vue christologique, par exemple la finale du Sermon 9, où Augustin, après avoir présenté le Fils comme co-éternel au Père, ajoute que le Père l'a fait plus petit et s'est rendu supérieur à lui pour que son Fils, son unique, co-éternel à lui, égal à lui, dise de lui « Le Père est plus grand que moi ». Augustin ne pouvait pas mieux dire, du même mouvement, dans une même phrase, l'égalité du Fils avec le Père et la radicale humilité à laquelle le Fils a consenti en devenant homme. J'évoquerai brièvement un troisième et dernier aspect qui contribue beaucoup à faire la richesse de ces sermons, à savoir leurs développements ecclésiologiques. Il y aurait certainement beaucoup à dire sur ce point. On pourrait par exemple relever l'intérêt du développement sur le baptême à la fin du sermon 3, dans le contexte de l'opposition aux donatistes. Mais je voudrais surtout souligner la remarquable lecture qui est faite dans le sermon 10 du texte du chapitre 2 de l'Épître aux Galates, Galates 2, 11, 14. D'après ce texte de Galates, Paul avait reproché à Pierre de s'être conformé à des observances juives. Or, à propos de cet épisode, qui illustrait à sa façon un conflit interne à l'Église, Augustin prend d'abord soin de souligner que ce ne sont pas les observances juives comme telles qui sont en cause. Simplement, elles ne sont plus nécessaires depuis la venue du Christ. Ce que Paul reproche à Pierre, ce n'est pas de reconnaître la légitimité de ces pratiques, mais c'est de croire qu'elles sont encore indispensables. Et c'est d'obliger par conséquent les païens à les adopter. Augustin dit cela dans une formule très remarquable que je cite. Étant donné que ces rites sacrés des Juifs n'étaient plus nécessaires après la venue du Christ, mais qu'ils avaient annoncé celui qui les aurait rendus non nécessaires, il fallait y mettre fin avec honneur, non les rejeter avec horreur. En latin, cum honore fuerant finienda, non cum aurore respondo. Magnifique. Bien sûr, le mot « église » n'est pas employé comme tel dans ce développement, mais l'interprétation de l'incident survenu entre Paul et Pierre est d'une grande portée ecclésiologique. À travers sa lecture du texte de Galates 2, 11, 14, Augustin fournit un point de repère essentiel pour la compréhension des rapports entre les divers membres de la communauté chrétienne et plus précisément ici, des rapports entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens issus des nations. Les quelques réflexions que je viens de proposer ne peuvent évidemment donner qu'une idée très partielle du volume qui nous retient ce soir. Elles suffisent néanmoins, je pense, à dire l'importance de ce volume. On ne saurait trop remercier François Dolbeau pour sa découverte des sermons et pour tout le travail qu'il leur a consacré depuis cette découverte. On doit aussi admirer le remarquable travail d'édition, de traduction et d'annotation dont l'ouvrage est le fruit. Et je voudrais terminer en formulant tous mes vœux pour que la publication ainsi engagée se poursuive au mieux et pour que l'on puisse, dans les années à venir, découvrir avec non moins de joie les autres volumes de sermons qui nous sont annoncés. Merci beaucoup.
Très grand merci à Michel pour son exposé qui nous donne déjà une vision large de ces sermons. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Nathalie Requin. Nathalie Requin est marianiste. Elle a soutenu en 2014 sa thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études sur les Quaestiones Evangeliorum de Saint-Augustin. Et cette thèse est aujourd'hui publiée aux éditions Arachne en Italie, mais la thèse est publiée en français sous le titre « Les Quaestiones Evangeliorum d'Augustin d'Hippone, sans commentaire d'Augustin sur les évangiles de Matthieu et Luc ». Nathalie collabore aussi à ce travail de publication des sermons, mais elle interviendra dans le deuxième volume, ce qui n'est pas encore publié, mais qui est en préparation. Donc, je lui donne la parole. Il faut qu'elle réactive son micro. Merci.
Oui, bonsoir. Pour ceux qui le désirent, j'ai placé dans la conversation un exemplier pour que vous puissiez suivre les textes d'Augustin que je vais citer. Donc, vous pouvez cliquer sur le fichier, il s'ouvrira, et comme ça, vous en profiterez davantage. Depuis un an que sévit la pandémie, on n'a jamais autant vanté les vertus de la communication et la nécessité de s'y former. Et dans le même temps, on ne s'est jamais autant méfié de toute parole publique. Dans ce contexte, lire les homélies d'Augustin est aussi dépaysant que rafraîchissant. De l'avis même de François Dolbeau, Augustin a porté à un niveau inégalé l'art de communiquer. Je me propose de confirmer cet éloge en l'illustrant par un parcours dans 10 sermons d'Augustin. Ces discernements sont issus de l'ensemble des 26 pièces inédites, partiellement ou intégralement, que François Dolbeau a découvertes en 1991, et nous en avons la primeur, je vous le remonte pour le plaisir, en traduction française annotée, dans ce volume de la bibliothèque augustinienne. Le parcours retenu a pour fil conducteur les figures du Christ présentées par thème, du salut à l'Eucharistie en passant par l'Église. Le premier thème, c'est le salut. Traiter quelqu'un de chameau est bien peu plaisant pour la personne, qu'on s'en prenne à son caractère fort peu commode ou à la légèreté de ses mœurs. Quelle surprise d'entendre Augustin nous dire « Je reconnais clairement sous le nom du chameau une figure de Monseigneur ». Le sermon d'Olbeau V a été improvisé un dimanche de décembre 403 à Carthage. Augustin commente la finale de l'épisode de la rencontre entre le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez toujours?
Oui, on t'entend. Oui, on t'entend bien.
J'ai un problème d'écran, mais c'est pas grave. Je vais passer. Je vais faire sans mon écran. Donc, Augustin commente la finale de l'épisode de la rencontre entre le jeune homme riche et Jésus. Il est plus facile à un chameau de passer par un chat d'aiguille. Ah oui, c'est quelqu'un qui est en train d'afficher l'exemplier, c'est ça?
Exactement, c'est Laetitia affiche l'exemplier.
D'accord, alors attendez, je viens de comprendre. En entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Pourquoi les disciples sont-ils profondément déconcertés? Pourquoi posent-ils la question « Qui donc peut être sauvé ?» Ils ne sont pourtant pas riches et il y a fort peu de riches qui suivent Jésus. Augustin explique qu'il faut entendre « riche » en un sens spirituel, car ce ne sont pas les possessions, mais les convoitises qui font le riche. Et là, tous sont concernés. Puis Augustin en vient au chameau. S'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume, autant dire qu'il est impossible pour ce riche d'entrer dans le royaume. Mais à Dieu, tout est possible. Et Dieu a fait justement que le chameau ait passé par le chat d'une aiguille. Comment cela? Quand le Christ souffrit sa passion pour ouvrir aux pécheurs le passage vers le Père, à condition qu'ils se détournent de leur convoitise et placent leur trésor au ciel. Je cite le sermon d'Augustin. « Ce n'est pas sans raison que Jean-Baptiste, le héros du Seigneur, portait un vêtement en poil de chameau. Parce que, quand allait venir après lui le juge qu'il précédait, il portait pour ainsi dire sa livrée. Je reconnais clairement sous le nom du chameau une figure de mon Seigneur. Je reconnais sa grandeur, bien que son cou se ploie humblement. Je reconnais sa grandeur, lui que personne n'aurait pu charger de souffrance s'il ne s'était lui-même abaissé jusqu'à terre. Je vois le chat de l'aiguille par lequel, lui, si grand, il est passé. Dans l'aiguille, je vois la piqûre. Dans la piqûre, la passion. Dans le trou, les angoisses. Le chameau est donc déjà passé par le chat de l'aiguille. Que les riches ne désespèrent pas, ils le suivront dans le royaume des cieux. » Augustin est bien le seul exégète de l'Antiquité à faire du chameau une figure du Christ. Les autres auteurs chrétiens voyaient plutôt dans le chameau, en raison de la difformité de ses bosses, la figure des pécheurs, et donc dans le chat de l'aiguille, la voie étroite du salut. Mais Augustin retient de l'animal sa grandeur, et l'humilité qu'il manifeste quand il s'agenouille de toute sa hauteur. Ces deux éléments élèvent le chameau au rang de symbole de l'incarnation. Or, le paroxysme de l'humilité du Verbe ayant assumé l'humanité, c'est la mort sur la croix. C'est pourquoi le chat de l'aiguille symbolise les angoisses de la passion. C'est très probablement la première fois qu'Augustin avance cette exégèse figurée en public. Aussi prend-il soin de renforcer l'allégorie avec un appui supplémentaire dans les évangiles. Le vêtement en poil de chameau du Baptiste. Le Baptiste porte les couleurs de son maître. Vous trouverez toutes les explications dans les notes de bas de page du volume et à la note complémentaire 17. Cet extrait de la prédication est non seulement original et savoureux, mais il transmet aussi de manière vivante et colorée un enseignement profond. Le salut est offert par la grâce de l'incarnation. Tout homme, riche ou pauvre, est appelé au salut. Il suffit de placer sa foi en Dieu pour qui tout est plausible. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez un chameau, vous ne le regarderez pas du même œil. La deuxième figure du Christ est extraite du sermon d'Olbeau X, prêché en dehors d'une célébration eucharistique. Augustin traite de la dissension entre Pierre et Paul. Paul reproche à Pierre d'obliger les païens à judaïser. Augustin consacre donc un développement important à la signification des rites sacrés des Juifs. Donc je cite l'extrait. Ces rites n'étaient plus désormais nécessaires au salut. Ils l'avaient sans doute été dans le passé lorsqu'ils annonçaient la venue du Christ. Le couteau de Pierre était nécessaire dans le passé avant que vînt la pierre en personne. Ici, le lecteur exprime toute sa reconnaissance à l'auteur de l'annotation du serment. Assurément, les associations d'idées à l'origine de la figure du Christ comme pierre de circoncision étaient aussi familières à Augustin qu'à ses auditeurs, puisqu'il ne les explicite pas dans ce serment. Mais pour le lecteur d'aujourd'hui, la figure est quelque peu énigmatique. Certains rites de l'Ancienne Alliance qui ont eu pour vertu de préfigurer les rites de la Seconde Alliance sont devenus obsolètes. La Nouvelle Alliance sont devenus obsolètes. Pleinement réalisés et dépassés dans les rites institués par le Christ, ils ne doivent plus être pratiqués. Ainsi en va-t-il de la circoncision du prépuce au huitième jour, à partir du moment où fut institué le baptême. On lit dans le livre de Josué qu'on utilisait des couteaux de pierre de silex pour circoncire les garçons juifs. Or, les exégètes antiques ont acquis le réflexe d'identifier dans les écritures toute pierre, roc ou rocher, avec le Christ, d'après l'équivalence posée par Paul en 1 Corinthiens 10, 4. La pierre était le Christ. Enfin, pour comprendre la figure du Christ pierre de circoncision, il faut avoir à l'esprit Colossiens 2, versets 11 et 12. Je l'ai mis sur l'exemplier. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, par le baptême, le Christ dépouille, circoncis, le catéchumène de son corps de chair en le plongeant dans sa mort pour le faire ressusciter avec lui. Dans le serment 10, Augustin ne s'est pas étendu. Dans sa concision, cette image du Christ est percutante pour qui saisit l'arrière-plan des associations d'idées. Cependant, l'acte lui-même de la circoncision était étranger aux chrétiens et mal vu des romains. L'image ne relève donc pas de l'univers familier des auditeurs de l'évêque. En revanche, la figure du Christ médecin est immédiatement compréhensible et très courante dans la prédication d'Augustin. Elle est aussi largement développée dans 3 des 10 sermons qui nous intéressent, les sermons 4, 5 et 6. Tout le genre humain est malade, gisant de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et cette solidarité spatiale, qui prend une résonance toute particulière en ce temps de pandémie mondiale, reçoit dans le serment 5 une extension chronologique. Le genre humain est malade depuis Adam jusqu'à la fin. À cette solidarité spatiale et chronologique de l'humanité dans le péché, répond la solidarité dans l'accueil de la grâce du salut. Un seul et même médecin est venu pour le salut de tous, c'est le Christ. Pour les fidèles d'Augustin, le terme latin de salut, salus, unissait étroitement la bonne santé du corps et le salut de l'âme, la première étant ordonnée au second. Par cette métaphore médicale, Augustin dresse un tableau tout à fait grandiose de l'histoire du salut. Aux différents stades de l'évolution de la maladie ont été envoyés les prophètes, comparés aux serviteurs du médecin, l'équivalent des aides-soignants. Mais quand la maladie s'est aggravée, alors le médecin est venu en personne au chevet du malade. Donc je cite l'extrait, le premier. « Notre médecin a dit, dans les derniers temps, le malade sera plus fortement et plus violemment agité. Il faut qu'à ce moment-là, je vienne en personne pour assurer son traitement. Je lui redonnerai des forces. » Je le réconforterai, je l'encouragerai, je lui ferai des promesses, je le guérirai, s'il a foi en moi. Ainsi fut fait. Il est venu, il s'est fait homme. Il a partagé notre condition mortelle pour que nous puissions partager son immortalité. C'est pour guérir l'humanité que le Fils s'est incarné, pour guérir les hommes en les détournant de ce qui passe, pour qu'ils s'attachent à ce qui ne passe pas. Le traitement thérapeutique est essentiellement fondé sur l'humilité. La posologie varie selon les individus. Pour certains, le Christ médecin offre à boire le calice de la passion, car la passion est le paroxysme de l'humilité. Mais tous ne sont pas appelés aux martyrs. Je cite Augustin, « Ce calice, il faut le boire s'il est donné par celui qui sait ce qu'il donne et à qui il le donne. Mais s'il ne veut pas qu'on le boive, qu'il guérisse d'une autre façon. L'important est qu'il guérisse » dans le serment 4. Pierre est un bon exemple de l'adaptation du traitement à chacun. Il a présumé de ses forces et réclamé le calice de la passion. Mais son accès de fièvre a été mieux guéri par le repentir de son reniement. La pointe de la figure du Christ médecin est l'exhortation à la confiance. Deux arguments, transposés de la vie quotidienne à la vie spirituelle, alimentent cette confiance. Premièrement, le médecin est un expert. Il connaît parfaitement et le malade et la maladie. Je cite, « Il est plus avisé que nous, sachant mieux que nous-mêmes quel est notre intérêt et mieux que nous ce qui se passe en nous. » Il en va ainsi du malade et du médecin. Le premier souffre et ignore ce qu'il a. Le second examine la souffrance de l'autre et prononce un diagnostic exact dans le serment 4. Deuxièmement, le médecin a donné de sa personne et testé le traitement sur lui-même. Il a bu en premier le calice de la passion pour que le malade n'hésite pas à boire à son tour, dans le serment 4 encore. Conclusion, abandonnons-nous en toute sécurité aux mains du médecin en étant absolument certain qu'il ne prescrira rien qui ne soit dans notre intérêt. Toujours le serment 4. Du thème du salut, nous passons à celui de l'Église et des mains du médecin à celle de l'artisan avec la figure du Christ constructeur de l'arche. Dans le serment 5, Augustin commente l'évangile du jour. « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme, en Matthieu 24, versets 37-39. » La péricope ne parle pas de construction de l'arche, mais Augustin a le sens pratique. Pour entrer dans l'arche, il faut commencer par la construire. Et surtout, il connaît parfaitement l'épisode de la construction de l'arche par Noé selon les indications divines en Genèse 6 et 7. J'ai eu deux surprises à la lecture de ce passage du serment 5. Première surprise, j'avais déjà rencontré Noé, pilote de l'arche, ou Noé grand prêtre, comme figure du Christ, mais je ne connaissais pas Noé constructeur de l'arche comme figure du Christ. L'exégèse est typologique. Noé a préfiguré le Christ. Tous deux ont pour point commun d'être artisans, mais le second dépasse le premier. Si Noé a offert un délai de 100 ans à ses contemporains pour les convaincre d'entrer dans l'arche, le Christ patiente encore. Je cite, « Oui, tant d'années ont passé et l'arche est encore en construction. » Sermon d'Olbo 5, 2. Deuxième surprise. Augustin insiste sur l'urgence de la conversion et appelle ses contemporains à se rendre semblables à ceux qui étaient dans l'arche. Mais en réalité, les hommes ne sont pas appelés à entrer dans l'arche, ils sont appelés à constituer l'arche. Augustin file la métaphore. Le Christ est le constructeur, les hommes sont les planches de bois assemblées pour constituer l'arche-église. Je cite l'extrait dans le serment 5. « Mes frères, beaucoup d'incroyants se trouveront au dernier jour dans la situation où s'est trouvée la multitude au jour de Noé. N'échappèrent au déluge que ceux qui étaient dans l'arche. Rendez-vous donc semblables à eux. Les mains de l'ouvrier sont là, le Christ construit l'arche. Attachez-vous à lui, remettez-vous entre ses mains, laissez-vous équarrir, laissez-vous ajuster à l'ensemble, que personne ne refuse d'être façonné par la main de cet artisan. Sa grâce sait comment te disposer. Il te faut seulement n'être pas, par un orgueil pervers, un bois putrescible. Il en sera ainsi. Pourtant, mes frères, beaucoup s'en moquent. Pour signifier l'incorporation du fidèle à la communauté et l'édification du corps ecclésial, cette image de l'assemblage des planches de bois est aussi forte qu'originale. D'abord, Augustin rend concret à l'esprit de ses auditeurs l'axiome selon lequel hors de l'Église, il n'est point de salut. N'échappèrent au déluge que ceux qui étaient dans l'arche. Ensuite, Augustin enrichit son interprétation symbolique de deux versions du verset de Genèse 6-14. Comme l'indique la note complémentaire 14 de Martine Dulay. Dans l'une, les bois pour la construction de l'arche sont dits imputrescibles, dans l'autre, équarris. Les bois imputrescibles évoquent l'idée du salut en termes de vie éternelle, incorruptibilité et immortalité. Et les bois équarris, confère conquatramini, contribuent à signifier l'unité. Voyez dans l'extrait cité, tous les verbes d'opération contiennent le préverbe « cum », ensemble, avec, sous la graphie « co » ou « comme »,« co aptate »,« con guadramini »,« com paginamini »,« com ponat ». Attachés, adhérés au Christ et assemblés les uns aux autres, les chrétiens constituent l'arche-église une et unie. L'unité dans la concorde est un thème très cher au pasteur qu'est Augustin. Notez que les bois putrescibles sont corrompus précisément par un orgueil pervers. Le préfixe « per » signifie que cet orgueil diverge, il ne s'ajuste pas à l'unité d'ensemble. La figure christique suivante est le développement de l'image joannique du Christ bon pasteur, mais adaptée au contexte de la prédication d'Augustin. L'évêque d'Hippone polémique contre les donatistes, ces chrétiens schismatiques qu'il finit par appeler hérétiques. Je cite le passage. C'est dans le sermon d'Olbo 4.2. Ils sont nombreux en effet, nous le savons car il y en a des quantités d'exemples, ceux qui, craignant de perdre leurs biens, y fixent des écriteaux au nom de personnages puissants, si bien que par ce procédé, l'un possède, l'autre inspire la peur. Donc, comme les hérétiques ne voient pas leur nom glorifié à travers le monde, ils ont mis le nom du Christ sur leurs brebis. Et si seulement ils les avaient achetés et non dérobés? Un seul les a achetés, les autres les ont volés. A acheté celui qui a racheté au diable, qui a donné pour prix son sang, un prix assurément suffisant pour acheter l'univers entier. Peut-être a-t-il été donné plus que nous ne valions, mais l'acheteur nous aimait. Donc il possède des brebis, je ne dirais pas leurs brebis, mais des brebis qu'ils prétendent leurs, ses serviteurs perdus. Ils ont mis la marque du Seigneur sur celles qu'ils ont volées. Mais le vrai propriétaire ne reste pas sans rien faire. Par d'autres serviteurs qui sont à lui, il adresse aux brebis des paroles de vérité, afin qu'elles reconnaissent la voix du pasteur et reviennent. Qu'elles reviennent au troupeau, qu'elles reviennent sans peur, nous accueillons la brebis, mais nous ne supprimons pas sa marque. Alors deux éléments enrichissent ici le thème, les titres de propriété et le rachat des brebis par le sang du Christ. Premièrement, les brebis qui portent la marque de leur propriétaire ne seront pas marquées à nouveau, ce qui signifie que les ministres de la grande église ne rebaptiseront pas les donatistes qui réintégreront le troupeau. Deuxièmement, le Christ, au prix de son sang, autrement dit par le don de sa vie, a racheté au diable les brebis qui lui avaient cédé ce droit de propriété sur elles. À la différence d'un sélectionneur, il n'a pas fait dans le détail. Il a offert de quoi racheter l'univers entier, ce qui permet à Augustin d'affirmer l'universalité du salut. Là encore, à l'encontre des donatistes qui circonscrivaient le salut à la seule Afrique où résidait leur Église. Alors, il y a une phrase qui me plaît particulièrement. Peut-être a-t-il été donné plus que nous ne valions, mais l'acheteur nous aimait. Sed emptor amator erat. Le jeu de mots emptor amator exprime en condensé une théologie très sûre de la rédemption. Ni sadisme, ni mercantilisme du côté de Dieu. La métaphore du rachat, synonyme de liberté recouvrée, est animée de toutes parts par l'amour du Père pour le Fils et pour l'humanité, et par l'amour du Fils pour le Père et pour les hommes pécheurs. Mais si l'homme est libre, racheté par le Christ, pourquoi le Christ lui demande-t-il encore d'être le serviteur de ses frères? La figure christique suivante repose sur un oxymore. Le Christ maître est serviteur. Mieux, c'est en étant le maître, donc en donnant des ordres, qu'il est au service de ses frères. Cette idée est développée dans le sermon d'Olbo 2, qui fut prêché dans des conditions très particulières. La veille de la prédication, en prenant une décision qui allait à l'encontre du désir de l'assemblée, l'évêque Augustin a fait acte d'autorité. Ce faisant, il a rendu un meilleur service aux fidèles que s'il avait satisfait leur désir, car il leur a inculqué l'obéissance qui sauve. Vous trouverez le détail dans l'introduction à ce sermon. Le Christ est le parfait exemple de ce service de l'autorité. Alors je cite un extrait. Car le Seigneur ne nous a pas enseigné à servir par la parole seulement, mais par l'exemple. Mais alors, dit quelqu'un, que mon évêque prenne exemple sur mon Seigneur et qu'il me serve. Je le dis à votre charité et comprenne qui peut, s'il ne servait pas, il n'ordonnerait pas. Car il sert celui qui ordonne ce qui est utile. Il sert par sa vigilance, il sert par sa sollicitude, il sert par son dévouement, il sert enfin par sa charité. Car celui-là même qui s'est fait ici-bas serviteur donnait évidemment des ordres à ses disciples. Écoute-le donner des ordres tandis que eux servent. Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Et il envoie ce qu'il veut où il veut. Il prescrit que les préparatifs se fassent où il le veut. On faisait ce qu'il ordonnait, et pourtant, c'était lui surtout qui servait. Car il n'a pas menti en disant à l'image du Fils de l'homme qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Comment cela, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir? Voici sous nos yeux les disciples qui courent, préparent la Pâque, disposent le repas. Comment cela, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, mais servir quoi? La suite le dit. Et donner sa vie pour ses amis. Vous voulez savoir ce qu'il nous a servi? C'est de cela que nous vivons aujourd'hui. De ce qu'il a alors servi à sa table, nous sommes nourris aujourd'hui. Alors vous avez dû voir qu'Augustin cite de nombreuses fois l'Écriture pour asseoir son développement. Et avant cet extrait, sur le même thème, il avait cité encore Luc 2,51, le Christ enfant est soumis à ses parents. Et Matthieu 12, 49-50, ceux qui font la volonté du Père sont les parents du Christ. Et Galates 5,13, Paul nous appelle à nous placer au service les uns des autres. Et enfin Matthieu 20, 26-27, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ce développement sur le service de l'autorité a une résonance très actuelle dans l'Église catholique romaine où sont travaillées à nouveau frais les notions de leadership et de gouvernance. Il aurait d'ailleurs eu toute sa place dans l'instruction intitulée « Le service de l'autorité et l'obéissance » publiée en 2008 par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Et je relis la dernière phrase de cet extrait. C'est de cela que nous vivons aujourd'hui. De ce qu'il a alors servi à sa table, nous sommes nourris aujourd'hui. Elle me conduit directement à l'ultime étape du parcours. Pour illustrer le thème de l'Eucharistie, nous rencontrons brièvement la figure du Christ à la fois maître du repas et plat servi. Le développement figure dans le sermon 9, dont les circonstances précises ne sont pas encore établies avec certitude. Augustin cite des versets du livre des Proverbes, proclamés devant l'assemblée en première lecture. Alors je cite l'extrait. Si tu t'assois pour manger à la table d'un puissant, comprends avec intelligence ce qui t'est servi et avance ta main en sachant qu'il te faut préparer des choses pareilles. Proverbe 23, versets 1 et 2 selon la Septante. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu t'assois à la table d'un puissant, on t'ordonne de comprendre avec intelligence ce qui t'est servi et ensuite on t'ordonne d'avancer ta main en sachant qu'il te faut préparer des choses pareilles. Qui est plus puissant que le Christ? Assois-toi pour manger à sa table. Approche-toi avec humilité de son autel, car la position assise est signe d'humilité. Comprends donc avec intelligence ce qui t'est servi. Ce que tu reçois, c'est ton hôte en personne. Tu t'es assis à la table du pasteur qui te nourrit. Tu y trouves la mort de ton hôte. Ceux qui sont assis à cette table savent de quoi je parle. Ce n'est pas peu de choses. Il s'offre à toi, celui qui t'a invité. Le Christ est identifié au maître de maison, au puissant, du livre des Proverbes. Et pour accéder à la table du puissant, l'homme doit faire preuve d'humilité. Voyez la note complémentaire sur la position assise. Il doit aussi être prêt à des choses pareilles. Il est invité à devenir ce qu'il reçoit, à imiter le Christ. Ce qui est servi à la table où l'homme passe, c'est l'hôte lui-même, mort de s'être offert à l'homme. Ce passage du sermon 9 est une évocation puissante de l'Eucharistie. Augustin reste cependant discret et allusif, car la discipline de l'arcane est très stricte au IVe siècle. Les catéchumènes étaient renvoyés de l'assemblée juste après l'homélie. Seuls restaient les fidèles pour la célébration de l'Eucharistie. La compréhension de ce mystère leur était réservée. Alors le parcours ici esquissé est loin d'épuiser la richesse de ces sermons. Il manque d'ailleurs à l'appel la figure du Christ Verbe, précédant dans l'éternité Jean le Baptiste qui est la voix, mais précédé par lui dans le temps, dans le sermon 3. Michel Feydeau en a déjà évoqué la beauté dans sa présentation. Ce rapide parcours nous aura, je l'espère, rendu sensible à la langue imagée d'Augustin prédicateur, comme l'était celle de Jésus et des auteurs bibliques. Il démontre aussi la capacité d'Augustin à tisser des liens entre les textes et à leur donner vie. Il révèle enfin l'intense engagement pastoral de l'évêque envers les fidèles, qu'ils soient de son diocèse d'Hippone, du diocèse de Carthage ou d'ailleurs encore. Je vous remercie.
Très grand merci Nathalie pour cette présentation suggestive qui nous montre non seulement la richesse théologique de ses prédications, mais aussi toutes les figures qui émaillent ces sermons d'Augustin. Et sans plus tarder, je vais donner la parole maintenant à ceux qui vont réagir à ces deux exposés et puis plus généralement compléter éventuellement, enfin donner d'autres indications, d'autres éléments sur ces sermons. Et donc, d'abord, je voudrais donner la parole à François Dolbeau, qui n'est pas, bien sûr, pas utile de présenter. Je rappellerai simplement qu'il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et directeur émérite, directeur d'études émérites de l'École pratique des hautes études. Mais vous le connaissez mieux que moi, ou aussi bien que moi. François, je vous donne la parole et je vous remercie.
Merci. Je voudrais d'abord vous remercier, Isabelle, et aussi Laetitia Ciccolini, qui ont organisé cette réunion à distance. Vous m'entendez bien ?
Oui, ça va, je crois.
Parce que ma communication est malheureusement instable, parce que je suis en province, et dans une province assez perdue. Je voudrais aussi remercier les orateurs qui ont su parfaitement dégager certains des intérêts majeurs de notre volume. Et aussi les 91 participants à cette réunion. Avec peut-être un rappel plus spécial pour Martine Dulahaye, qui a été la maîtresse d'ouvrage de ce livre que je n'aurais pas réussi à faire aboutir et que je n'avais pas réussi à faire aboutir dans les années 2000. Et puis aussi, parce que je l'ai vu parmi les présentes, Anne Gaget, qui m'a énormément aidé au moment de la première édition des textes, quand elle était à ce moment-là la cheville ouvrière de la revue des études augustiniennes. Je voudrais revenir brièvement sur deux points. D'abord, le titre du volume. Augustin, sermon d'Olbeau, indice, qui peut sembler arrogant à des non-spécialistes. Ensuite, la raison pour laquelle ces allocutions d'Augustin sont restées inconnues jusqu'en 1990, selon le souhait de Nathalie Requin. Mais d'abord, le titre du volume. À la fin du XVIIe siècle, les moristes connaissaient 396 sermons. Le nombre actuel est d'environ 575. Je dis environ car il est difficile d'être plus précis dans la mesure où l'authenticité de certains textes reste à valider. Ces chiffres s'expliquent par le fait que les découvertes de nouveaux sermons n'ont pas cessé depuis la fin du XVIIIe siècle. Découvertes qui sont liées au nom de Denis, ex-jésuite, bibliothécaire à Vienne, Frangipane, moine au Mont-Cassin, Caillot et Saint-Yves, deux prêtres français actifs en Italie, D'Angelo Maille, cardinal bibliothécaire, Liverani, chanoine à Sainte-Marie-Majeure, et plus récemment les bénédictins Germain Morin, André Villemar et Cyril Lambeau. Sans oublier un prêtre lyonnais qui fut de mes amis, Raymond Etex. Don Morin réédita tous les sermons découverts depuis les moristes jusqu'en 1930, en les groupant ainsi par découvreurs. Depuis 1976, grâce à Don Verbraeken, une autre appellation est possible, de type alphanumérique, qui intercale dans la numérotation moriste les sermons postérieurs aux moristes. Les premiers sermons de Denis sont ainsi devenus 223a, 228b, 375a, 375b, etc. Mais cette nouvelle appellation alphanumérique révèle seulement une trouvaille postérieure à 1700, alors que l'appellation par découvreur suggère aux spécialistes avec plus de précision la date à partir de laquelle le sermon a été connu et souvent, très souvent, un lieu de trouvaille. C'est ainsi que les sermons Maille ont tous été découverts au Vatican et sont devenus disponibles à partir de 1852. Beaucoup de sermons Morin à Wolfenbüttel en 1913, etc. Il y a donc un intérêt scientifique à conserver le nom du découvreur. Et cette solution a été retenue à juste titre par l'Augustinus Lexicon, c'est-à-dire la grande encyclopédie augustinienne dont la publication s'achève actuellement à Würzburg et Bâle. Le titre de sermon d'Olbeau peut donc sembler prêté à la critique. mais révèle aussitôt une date, sermons inconnus en tout ou en partie avant 1990, et pour la plupart d'entre eux, un lieu de trouvailles, Mayence. Même si on apprécie guère le culte de la personnalité, notamment dans le monde anglo-saxon, on est forcé de reconnaître qu'il serait moins parlant d'intituler le volume présenté ce soir Sermon 214A, 359B, 293A augmenté, 299A augmenté, 114B, 23B, etc. L'appellation par découvreur préserve une certaine unité du groupe. Pourquoi toutes ces allocutions sont-elles restées inconnues jusqu'à notre époque et comment ma trouvaille s'est-elle faite? Le sermonnaire de Mayence est un recueil tardif sur papier, datable d'après ses filigranes des années 1470-1475. Le rédacteur autrichien du catalogue des manuscrits d'Augustin conservés en Allemagne, dans le respect des normes de l'entreprise à laquelle il collaborait, n'avait donc pas jugé utile d'en détailler le contenu. D'autre part, ce manuscrit était conservé dans la bibliothèque municipale, moins fréquenté par les chercheurs que la bibliothèque universitaire de Mayence. Ce fonds avait été inventorié durant la Première Guerre mondiale par un excellent érudit, Gustav Binz. Mais le catalogue de ce dernier ne fut jamais publié en raison de la crise qui affecta l'Allemagne à partir de 1919 et aussi du transfert de Gustav Binz de Mayence à Bâle. Le fonds manuscrit de la Stadtbibliothèque de Mayence resta donc une terra incognita jusqu'en 1990, lorsque parut le premier catalogue de cette collection, dû à deux excellents médiévistes, Gerhard List et Gerhard Powitz. Ceux-ci n'étaient pas spécialistes d'Augustin, et ils se contentèrent de répertorier le contenu du sermonnaire sans en comprendre l'origine et en affectant les pièces inconnues d'un point d'interrogation. En septembre 90, je suis sans doute le premier patristicien à avoir consulté ce catalogue fraîchement sorti des presses avant même que le livre ne soit présenté aux journalistes de Mayence. Or, quelque temps plus tôt, j'avais participé à un colloque célébrant le troisième centenaire de l'édition augustinienne des Moristes. Cela m'avait amené à m'intéresser à la transmission et à la réception des sermons, et à en identifier quelques fragments authentiques dans un florilège médiéval, le sermon appelé désormais Dolbeau I. À la lecture du catalogue, j'ai reconnu aussitôt, dans le manuscrit 1.9 de Mayence, la présence d'un recueil égaré, mais connu grâce à un inventaire d'époque carolingienne, celui des bénédictins de Lorch, en S, un recueil analysé dans un ouvrage classique de Don Verbraeken, étude critique sur les sermons authentiques de saint Augustin. Mon mérite est donc assez mince et repose largement sur les travaux antérieurs de Verbraeken et des rédacteurs du catalogue. Ma trouvaille fut instantanée, mais son exploitation a duré des années et, comme on le voit aujourd'hui, n'est pas encore achevée. Un détail codicologique est de nature à susciter l'espoir de nouvelles découvertes. Et ma parole s'adresse ici aux jeunes chercheurs. Certaines pages du manuscrit de Mayence ont été arrachées ou partiellement déchirées, ce qui nous prive de certains passages de sermons et peut-être de sermons entiers. Or, sur deux feuillets différents, on a ajouté les mots « hic incipe » « commence ici » qui suggèrent que le sermonnaire a servi d'exemplaire. On peut donc espérer retrouver dans d'autres recueils tardifs de l'ère germanique des sermons isolés ou des séries de sermons extraits du manuscrit de Mayence. Merci pour votre attention. Je laisse la parole maintenant à Jérémy Delmul, qui est peut-être mieux placé que moi pour juger très belle communication que nous venons d'entendre.
Très grand merci François pour ces indications très précieuses pour mieux comprendre la découverte de ces sermons Et bien évidemment, nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur l'opportunité d'avoir nommé ces sermons, sermons d'Olbeau, parce que ça identifie immédiatement la nature de ces sermons et l'unité de la collection. Je vais donc donner maintenant la parole à Jérémy Delmulle, que je vais présenter brièvement. Jérémy est docteur de l'Université Paris-Sorbonne et il est depuis 2019 chargé de recherche au CNRS au sein de la section de codicologie, d'histoire des bibliothèques et d'héraldique. Et donc, il est à l'IRHT. Et ses recherches portent tout particulièrement sur la littérature patristique latine et sa transmission au Moyen-Âge. Donc, bien évidemment, ceci l'intéresse tout particulièrement. Les florigèges patristiques, en particulier augustiniens, l'histoire des bibliothèques médiévales et modernes, l'érudition bénédictine des XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi ces publications, je mentionnerai uniquement le volume publié en 2018, Prosper d'Aquitaine contre Jean Cassien, le Contra Collatorem, l'appel à Rome du parti augustinien dans la querelle post-pélagienne. Jérémy a en outre collaboré au volume que nous présentons ce soir et en particulier en a assuré la relecture avec Laetitia. Je lui donne donc la parole.
Merci beaucoup Isabelle, merci à tous d'être présents. Vous m'entendez bien, hein, pas de problème.
Ça va bien, oui.
Je remercie à mon tour Michel Fédoux et Nathalie Requin pour leur communication de ce soir. Et merci surtout de nous avoir lus avec autant d'attention. Vous avez lu Augustin avant tout, je suppose, mais quand même les notes de bas de page et les complémentaires. Et en effet, il me revient maintenant de vous présenter, si vous voulez, rapidement les coulisses de la préparation de ce volume, du premier volume d'une série qui vous est présenté ce soir. Les deux communications de Michel Fédoux et Nathalie Requin nous ont déjà donné un bel avant-goût de ce qu'était ce BA77A, de ce que seront les suivants. Et dans un instant, François Delbeau, Isabelle Baucher et moi-même serons disposés à répondre à toutes les questions que vous auriez envie de nous poser. Je tenais simplement, avant d'en arriver aux questions, à souligner un aspect qui a déjà été relevé par Michel Fédoux et par Nathalie, qui est celui de la nouveauté, voilà, qui a aussi été expliqué, explicité par François Delbeau à l'instant, celui de la nouveauté des sermons d'Olbeau. Les sermons d'Olbeau, les indices que vous avez là, sont nouveaux, disons, de deux manières. Alors bien sûr, François Delbeau vient de le rappeler, ils sont nouveaux simplement parce qu'ils ont été découverts récemment, en 90, une découverte exceptionnelle à plus d'un titre. Ça faisait quand même de longues décennies qu'on n'avait pas réussi à mettre la main sur, je ne dis pas un sermon, mais sur une série entière de sermons tout à fait inconnus ou partiellement inconnus, sans doute, si je ne me trompe pas, depuis Wolfenbüttel en 1913. Et de ce fait-là, évidemment, la découverte du sermonnaire de Mayence a marqué l'histoire de la prédication et de l'étude de la prédication d'Augustin, pardon, et on ne dira jamais assez combien également cette découverte a suscité un enthousiasme, je dirais, de la part des chercheurs et un développement des études sur la prédication augustinienne et plus généralement patristique et même médiévale. Hein. Apprendre en 90 qu'il est encore possible de trouver des textes d'Augustin que personne n'a lu avant soi, c'est en effet quelque chose qui, de mon point de vue, est suffisamment enthousiasmant pour susciter des vocations, pour encourager des chercheurs à se mettre à l'affût de telles pièces perdues dans les manuscrits médiévaux. Et c'est tout l'intérêt, je crois, le profil, si je puis dire, de François Delbeau le montre extrêmement bien, comment le médiéviste, qui est en même temps un patristicien, permet, réussit, voilà, à mettre au jour des pièces inconnues jusqu'alors. Alors, si vous me direz que 90, finalement, c'était il y a 30 ans, hein, et pourquoi le sont-ils nouveaux toujours aujourd'hui? D'abord parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, en français, on n'avait pas encore de traduction de ce sermon. François Delbault, avec l'efficacité qu'on lui connaît, avait réussi en quelques années seulement à éditer l'ensemble des sermons, les 26 nouveaux sermons, en 4 ans, je crois. En 1996 paraissait la première édition de ce volume avec l'édition intégrale critique de ces 26 sermons. La même année, on avait commencé déjà à les exploiter assez en détail grâce à un colloque organisé à Chantilly en 1996, publié en 1998. Un autre colloque à Mayence a permis d'avancer davantage encore en 2003 dans l'étude de ces sermons. Et donc, si l'on veut, dans le milieu des augustinisants, ces sermons sont bien connus, très étudiés depuis leur découverte. Ils le sont d'autant plus peut-être, y compris pour quand on sort du milieu des spécialistes d'Augustin, grâce à des traductions qui en ont été faites très rapidement. Et tout le paradoxe de cette histoire est en effet que les sermons d'Olbeau existent en anglais, en italien, en espagnol. Ils existeront bientôt en polonais. Partiellement, ils sont traduits en néerlandais. Et donc, il était bien temps, grand temps, hein, qu'ils paraissent en français. On pense évidemment à tous les, toutes les personnes intéressées qui, ne maîtrisant pas le latin, avaient hâte que ces sermons paraissent dans leur langue. Et jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, seulement quelques-uns avaient fait l'objet d'une publication dans la revue Conférence. Et donc, pour de ce point de vue-là, les sermons restent nouveaux également, puisqu'on a aujourd'hui encore beaucoup de choses à y découvrir. Grâce à l'édition que vous voyez ici, on a accès, parce que cette édition française a tardé, si on peut le dire comme ça, ça a finalement été un atout pour notre projet, puisque arrivant après d'autres publications, après d'autres traductions, après d'autres études, eh bien, évidemment, je veux dire qu'elle est meilleure que les précédentes, parce que, comme Isabelle l'a rappelé, elle se fonde sur une édition encore revue, encore corrigée par rapport à la deuxième édition du volume de 96. Et donc, à partir de maintenant, cette troisième édition est, pour le texte latin, celle qui doit faire référence. Et donc, c'est celle-ci qui a été traduite. Évidemment, cela ne vous dispense pas d'acheter le volume de 96 republié en 2009, puisque beaucoup d'informations très précises sur la transmission du texte, sur les circonstances, certains commentaires des différents sermons n'ont pas été repris dans le petit volume de la bibliothèque augustinienne. Et la plupart du temps, vous trouverez, je le signale parce que c'est important de le savoir, de nombreux résumé renvoyant à des passages de ce volume-ci. Et donc voilà, les deux formeraient, si l'on veut, le couple parfait de livres à avoir à la maison. Je disais donc qu'ils étaient nouveaux également parce que, je dirais, les sermons d'Olbeau d'Augustin sont comme neufs, comme s'ils n'avaient jamais servi. Et en effet, François Delbault l'a rappelé à l'instant, ces sermons ont très peu circulé au Moyen-Âge, si bien qu'ils sont pour la plupart connus par un seul manuscrit de la fin du XVe siècle. Est-ce que cela doit nous décevoir? Est-ce que cela veut dire qu'ils sont moins intéressants que les autres? Évidemment, non. Mais c'est même d'ailleurs l'inverse, je dirais, pour le philologue, parce que, en histoire des textes notamment, on part du principe que plus un texte est lu, parce que un texte qui aura été beaucoup lu aura été beaucoup copié. Et chaque copie étant un relais dans la transmission est une étape supplémentaire de risque d'erreur, de risque de remaniement de pièces, si bien que parfois il est très délicat de reconstituer un texte original à partir de copies successives qui à la fin de la série de copies, auront par endroit altéré, dégradé le texte. Notre chance est donc que, à Mayence, François Delbault ait découvert une copie tardive, certes, mais d'une collection antique qui, sans doute, n'avait que très peu été copiée entre les deux. Il y a peu d'intermédiaires entre entre, disons, le 5e siècle et le 15e. C'est toute notre chance, puisque c'est grâce à cette particularité de la transmission qu'on a, qu'on peut avoir sous les yeux ces textes qui, comme le rappelait bien Michel Fédoux tout à l'heure, nous montrent quelque chose d'instantané, davantage instantané hein, que des textes qui risqueraient d'avoir été retouchés. On voit en effet Augustin ne pas hésiter à improviser, à changer d'avis en cours de route, dans une même phrase, à s'adapter à son public, à un événement, ou voilà, une sollicitation par exemple. Et si on ajoute à ça le fait que on sait que les sermons d'Augustin n'étaient pas dictés ni écrits, mais pris en note par des tachygraphes, eh bien, on comprend très bien comment, avec ces sermons-là, on est comme en train d'assister au plus près hein, à la prédication en train de se donner. D'où tous les détails qu'on trouve dans ces sermons d'Olbo, qu'on trouve bizarrement pas dans tous les sermons d'Augustin, du fait de la transmission. Et donc voilà, c'est cette mise au jour d'une pureté originale, si on veut, de ces sermons qui font aussi tout leur intérêt. Le travail des traducteurs lors de la préparation de ce volume a justement été de veiller à rendre de la manière la plus fine possible ces caractéristiques, en faisant donc attention à bien rendre les aspects d'oralité, d'anacolute, de baisse de style par moment, d'hésitation, etc., de confusion. Ça arrive aussi, même chez Augustin. J'espère donc que vous apprécierez cet effort. Je signale, je tiens à souligner beaucoup, cette traduction, on l'a dit, a mis 20 ans hein, à sortir. Et cette maturation qui la rend sans doute la plus intéressante, c'est un travail collectif commencé dans les années 2000 qui voit le jour ici après des années de discussion. Hein. Michel Fédoux parlait d'un travail d'équipe, en effet. On ne l'a pas dit, je pense, mais pour la préparation de ce volume et pour les suivants, le but du jeu est celui-ci. De travailler sur un texte revu, en plus par le découvreur, c'est quand même un atout formidable pour les traducteurs, qui ont l'éditeur à disposition, qui donc peuvent confronter leur point de vue, poser des questions. Très souvent, ceux qui, parmi vous, ont déjà traduit, savent très bien qu'on est toujours amené à des problèmes dans le texte latin. On se demande toujours pourquoi l'éditeur a choisi cette leçon-là et pas une autre. Et le fait de pouvoir poser la question directement, c'est en effet la solution rêvée pour tout traducteur. C'est un travail d'équipe, donc, qui suppose le travail d'un seul, d'abord, qui est ensuite soumis à tout un groupe, la plupart du temps une dizaine de personnes, voire plus, qui discutent, qui examinent de manière très précise, très critique, parfois, la traduction des collègues pour l'améliorer le plus possible. Et de même, pour l'annotation, un travail est mené de précision qui, justement, de mon point de vue, voilà, rend cet effort extrêmement profitable à tous, et donc, évidemment aussi, et en particulier, aux lecteurs à qui il s'adresse. C'est Martine Dulay, surtout qu'il faut remercier pour son énergie, pour le temps qu'elle a pu consacrer à la relecture de chacun de nos textes. Et c'est aussi à elle que l'on doit la régularité avec laquelle les volumes sont préparés et sortiront, parce que dans nos disciplines, il arrive parfois, souvent, que les délais s'élargissent. Là, c'est pas le cas. 3 réunions par an nous donnent à travailler 5-6 sermons par an, si bien que vous pouvez vous attendre dans les années qui viennent à avoir plus ou moins un volume de sermons d'Olbo chaque année. Voilà. Jusqu'en 2024, si on arrive bien à terminer la série qui va jusqu'au sermon d'Olbo 32, voilà. 4 volumes, donc, en espérant que d'autres ne viendront pas s'y greffer à ce moment-là. Voilà. Écoutez, je pense que le temps est peut-être maintenant de venir aux questions, si vous voulez développer l'un ou l'autre de ces aspects. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour cela.
Très grand merci, Jérémy, pour votre enthousiasme et pour tout le dévoilement des coulisses de la fabrication de ces volumes. Merci aussi d'avoir souligné le rôle de Martine, qui nous a beaucoup, qui nous a stimulé dans ce travail et qui a assuré un gros travail de relecture et de mise en forme. Il est temps maintenant de passer aux questions. Je pense que vous avez été très absorbés par tout ce que nous avons dit, donc aucune question n'est apparue dans le fil de la conversation. Je dirais qu'il y a deux modalités possibles. Vous pouvez poser une question par la conversation, éventuellement, mais nous sommes nombreux, je ne garantis pas de voir tout le monde, éventuellement vous pouvez lever la main et je peux donner la parole à quelqu'un. Il est évident aussi que ceux qui sont intervenus peuvent réagir et ajouter aussi telle ou telle remarque. Alors, je vois tout de suite une question qui est complexe. Quelles sont les dates de prédication des sermons? Alors, je ne sais qui veut se lancer pour répondre. Peut-être François.
Oui, oui, mais la question est compliquée. Je dirais qu'il y a deux types de dates. Il y a des datations dans le cycle liturgique qui sont souvent faciles à établir. Il y a des sermons pour l'Ascension, pour la Pentecôte, pour la Vigile de Pâques, pour les fêtes de martyrs. Donc là, ça ne pose pas de problème. D'autre part, il y a des cas où les manuscrits médiévaux eux-mêmes précisent la date et le lieu, la date selon le calendrier romain, le 12 des calendes de juin, etc., et le lieu de prédication, c'est-à-dire non pas la ville, mais la basilique. Et seulement nous sommes capables de faire le tri entre les basiliques d'Hippone-la-Royale, le siège de Saint-Augustin, et les basiliques de Carthage que nous connaissons bien. Ça, c'est un premier point. Évidemment, pour l'historien, ce qui compterait serait la datation dans la carrière d'Augustin, la datation dans l'absolu. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Cela fait l'objet de discussions innombrables, très complexes. Il faut dire que toute édition de Sermon d'Augustin doit consacrer plusieurs pages à ce problème, et souvent on arrive à des disputes entre philologues, qui heureusement ne deviennent pas des disputes trop violentes, et même à l'intérieur de notre groupe, je dois dire que je n'ai pas toujours été d'accord avec telle ou telle datation qui est dans une introduction ou l'autre introduction. Mais il faut dire que ces problèmes sont extrêmement compliqués. Compliqué parce que Augustin pratique l'ars memoriae, l'art de la mémoire, et surtout une exégèse biblique qui procède par saut d'un verset à l'autre. S'il y a un mot qui se rencontre dans l'Épître aux Galates et dans le psaume 63, on a des chances de retrouver cette association assez souvent dans la prédication d'Augustin. Or, c'est de cette manière-là que le père Humbert, dans un très beau livre, « Nouvelles études de chronologie augustinienne », c'est de cette façon-là que beaucoup de sermons ont été datés, y compris ceux des sermons de Mayence. Et à mon avis, c'est une méthode qui porte des fruits, mais qui est aussi très dangereuse, parce qu'on voit bien que quelquefois, à 10 ans ou 15 ans de distance, Augustin reprend une exégèse qu'il a déjà utilisée dans les questions 83 ou dans les questions sur Matthieu, et sans qu'il y ait de proximité chronologique. Alors, en fait, la seule véritable manière de dater un sermon dans l'absolu, c'est d'y trouver une référence à un fait que nous connaissons. Par exemple, il y en a un certain nombre, par exemple, un tremblement de terre, une éclipse, la visite de l'empereur, la joyeuse entrée de l'empereur Honorius à Rome, l'ordination épiscopale d'Augustin, les lois contre les donatistes qui les privent de leur basilique, etc., etc. Mais le risque avec ce système de datation, c'est qu'une fois qu'on a rassemblé autour d'une de ces dates un ensemble d'œuvres, eh bien, on a tendance après, les chercheurs modernes ont tendance à regrouper à côté de ces textes datables ou bien datés des textes qu'on date par proximité. Et cela donne une image très discontinue de la prédication d'Augustin et des œuvres d'Augustin en général. Donc je dirais que la prédication d'Augustin, il vaut mieux que les théologiens et les exégètes s'en occupent sans attacher une importance excessive aux dates proposées par les philologues et par les historiens, parce que ces dates sont toujours sujettes à des révisions possibles, excepté dans des cas très précis. Donc dans l'article que je viens de publier et dans les Logoutinus Lexicon, intitulé « Sermones ad populum », je me suis forcé à ne pas répéter les dates habituelles, mais à indiquer seulement les jalons sûrs qui permettent de donner un terminus postquem ou un terminus antequem. Et parfois, j'ai dû me contenter de dire que tel sermon était postérieur à l'interdiction des cultes païens en 399, même si, par des raisonnements très compliqués, on arrive à dire, ça a été fait, le dimanche 22 novembre 413, en raison d'une foule de coïncidences, de raisons codicologiques, d'histoire des collections, etc., qu'il faut 3 ou 4 pages pour expliquer. Donc je me suis contenté de dire quels étaient les éléments absolument sûrs sur lesquels on pouvait tabler. Même si je sais que parmi toutes les démonstrations des philologues, celle de Don Morin ou celle de Paul-Marion Bert et Pierre-Marion Bert, il y a des raisonnements qui sont certainement justes, mais qui demandent beaucoup de temps pour les expliquer et qui demandent de toute façon vérification. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. La datation, en résumé, la datation dans le cycle liturgique est souvent facile. La datation est quelquefois précisée dans les manuscrits eux-mêmes. Quand elle ne l'est pas, on se fonde sur des dates sûres de la carrière d'Augustin et après les raisonnements philologiques qui viennent se greffer sur ces questions-là, évidemment, sont sujets à caution et ne doivent pas être pris comme parole d'évangile.
Très grand merci François pour ces explications qui nous mettent en garde contre des datations qui seraient proposées comme évidentes, parce que dans bien des cas, il y a simplement un aspect de probabilité et il ne faut pas les prendre, il faut les prendre avec recul. Est-ce que telle ou telle autre personne souhaiterait poser des questions? Ah, voilà une question qui apparaît. Pouvez-vous commenter la raison pour laquelle cette série de sermons n'a pas beaucoup circulé au Moyen-Âge? Pensez-vous qu'il y a une raison liée au contenu de ces sermons, le caractère de la compilation, ou est-ce que c'est un accident de transmission? Et ensuite, Agnès Vareille, la question peut être liée. Quelle est l'unité du recueil? En d'autres termes, sait-on pourquoi ces serments ont été réunis dans ce manuscrit? Il me semble, François, que c'est encore à vous de répondre.
Je crains que oui. Je crains que oui. Oui, alors, la première question, c'est y a-t-il une raison qui explique le fait que ces serments n'ont pas circulé au Moyen Âge? Alors, il y a certainement, parmi les sermons de Mayence, qui étaient restés inédits, un certain nombre qui supposent des événements très particuliers qui n'avaient pas d'intérêt pour la liturgie médiévale. Je pense par exemple à un sermon où Augustin fait part à l'assistance de la, disons, de l'élimination du schisme donatiste par suite du ralliement d'un évêque donatiste à la grande église catholique. Ce genre de choses n'avait pas beaucoup d'intérêt. Ou un autre sermon où Augustin fait part de sa suspicion à l'égard de la bonne foi de Pélage. En revanche, il y a d'autres cas où on a des sermons qui portent sur des thèmes extrêmement importants pour l'Église médiévale. Par exemple, l'amour de Dieu et du prochain, qui est au cœur même de la foi chrétienne, ou bien la vie conjugale. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à comprendre, on est obligé de supposer qu'il y a quand même une certaine part de hasard. Il suffit, si vous voulez, qu'un manuscrit disparaisse au 8e ou 9e siècle, et c'est toute la descendance qui est éliminée. Ce qui m'a frappé en publiant les sermons d'Augustin, c'est que parfois, j'ai retrouvé l'archétype de la tradition tout entière, en dehors du manuscrit de Mayence. C'est-à-dire que, dans certains cas, je pense au sermon 341 augmenté, nous avons des dizaines de témoins, mais qui sont très très courts par rapport à la copie de Mayence, parce que l'archétype que nous possédons de toute cette famille secondaire a été mutilé par la perte d'un cahier. Et donc vous voyez la fragilité. Si c'était le manuscrit lui-même et non pas un cahier qui avait disparu, eh bien il y aurait tout un pan de la tradition qui n'existerait pas. Je veux dire par là que il y a un rétrécissement dans la transmission de la prédication augustinienne extraordinaire entre le 6e et le 8e siècle. Et donc le problème est que les manuscrits, les collections entièrement d'Augustin qui ont disparu à ce moment-là, nous ont privés certainement de beaucoup de textes. Alors dans le cas de Mayence, dans le cas du sermonnaire de Mayence, on voit bien qu'il y a eu chez les Chartreux une toute petite tradition pour chacune des deux collections qui sont dans le sermonnaire. Dans un cas, à Lorch, en Allemagne, dans l'autre cas, à la Grande Chartreuse, en France. Et le sermonnaire de Mayence, qui vient de la Chartreuse de Mayence, regroupe ces deux collections qui avaient connu une très faible diffusion dans les Chartreuses. Et à Lorch, beaucoup de sermons d'Augustin que nous lisons actuellement ne sont connus que par des homélières du Moyen-Âge central, et dans ce cas-là, on peut dire qu'on a beaucoup de risques d'avoir des textes tronqués, mutilés, avec des accidents matériels, résumés, adaptés, etc. Et c'est pour ça que quand on a la chance de trouver des collections qui remontent à l'Antiquité, ce qui est le cas du Sermonaire de Mayence, puisque une partie est déjà énumérée dans le même ordre dans l'Indiculus de Posidius, et une autre est connue dans le même ordre ou dans un ordre différent par un inventaire carolingien, donc un inventaire du début du IXe siècle, on a beaucoup de chance parce que là, évidemment, comme le disait Jérémy Delmul, on a très peu de maillons. Donc je dirais, pour revenir à la question initiale, je crois qu'il y a une part de hasard, mais aussi une part de hasard dans la découverte. Parce que si on remonte à la fin du XVe siècle, pourquoi a-t-on copié ce manuscrit à la Chartreuse de Mayence vers 1470, à une époque où les imprimés commençaient déjà? Eh bien, je crois que c'est simple. Le manuscrit de Lorch avait été oublié et transféré chez les cisterciens des Berbères. Donc, il n'était plus à Lorch au Moyen-Âge. Les cisterciens des Berbères l'ont montré à un clerc au XVe siècle qui a rédigé un catalogue collectif des bibliothèques de la région rhénane vers 1470. Les gens ont découvert l'existence de ce manuscrit par ce catalogue collectif, d'où deux conséquences, la copie à la Chartreuse de Mayence de la collection, et d'autre part, la publication sous forme de livret in octavo, en incunable, de quelques-uns des sermons de Mayence. C'est là le paradoxe, ces sermons qui ont été édités pour la première fois à partir de 1990, il y a certains de leurs congénères qui avaient été les premiers sermons d'Augustin publiés sous forme imprimée, grâce à un imprimeur de Cologne, Ter Hurnen, qui avait commencé à publier cette collection par petits livrets et qui malheureusement a dû s'arrêter d'abord par crise du papier, en 1470-75, et d'autre part parce qu'il est mort de la peste. Et voilà pourquoi cette collection qui a été ressurgie en 1470-1475 n'est ressurgie une seconde fois qu'en 1990. Mais je crois qu'il y a une part de hasard dans la copie de ces textes, dont certains ont un puissant intérêt, y compris pour des lecteurs médiévaux. La situation est tout à fait différente de celle des lettres d'Yves Jacques, qui, elles, étaient des lettres administratives et qui pouvaient sembler moins intéressantes que des lettres doctrinales. Alors, il y avait une seconde question, mais je dois dire que j'ai été trop long pour la première, alors j'ai un peu oublié la seconde.
L'unité de la collection, François. Quelle est l'unité du recueil? En d'autres termes, c'est en pourquoi ces sermons ont été réunis dans ce manuscrit?
Alors, l'unité du recueil, il y a donc deux collections indépendantes dans le recueil. Hein. Et dans les sermons 1 à 10, je crois que la plupart des sermons sont des sermons venant de la collection de Mayence-Lorch. Il n'y en a que deux ou trois qui sont de la collection de Mayence-Grande Chartreuse, si mes souvenirs sont exacts. Il y a deux collections qui ont, me semble-t-il, mais ça est controversé, malgré tout, une certaine unité, et qui, je crois, apparaîtra beaucoup mieux aux lecteurs quand ils les liront à la suite. La collection de Mayence Grande Chartreuse, qui est peu représentée dans ce premier volume, est connue grâce à l'Indiculus de Posidius, c'est-à-dire qu'elle se trouvait déjà sous une forme très proche dans les archives épiscopales d'Hippone. Elle est classée par ordre liturgique, mais elle présente certainement de l'hétérogénéité. Je veux dire que ça ne représente pas, comme on l'a cru au début, et comme je l'ai cru au début d'après d'autres chercheurs, elle ne représente pas une seule campagne de prédication, mais plusieurs qui ont été mêlées. Cependant, je crois que par les thèmes qui sont abordés, il y a malgré tout une certaine unité qui tient au fait que ce sont des sermons, à mon avis, sauf exception rarissime, des premières années de l'épiscopat d'Augustin. On voit très bien dans ces sermons qu'il y a beaucoup d'allusions au manichéisme, à la dispute avec Jérôme sur l'épître aux Galates, à la véracité des Écritures, et on parle très peu des donatistes, par exemple. Parce qu'à cette époque-là, Augustin n'était pas directement confronté au problème avec les donatistes, même si le problème se posait déjà. La collection de Mayence-Lorch, elle aussi, est hétérogène. Mais elle a une certaine unité du fait qu'elle représente une prédication de Carthage et de voyage. Et dans ce cas, on voit très bien qu'il y a un bloc, de même qu'il y a un bloc dans Mayence Grande Chartreuse qui remonte aux premières années de l'épiscopat, il y a un bloc dans la collection de Mayence-Lorch qui remonte aux années 403-404. Il y a ainsi des allusions à l'embuscade à laquelle Augustin avait échappé, des allusions aux jeux qui se tiennent en hiver à Carthage, des allusions à l'entrée d'Honorius à Rome à l'automne 403. Donc il y a un certain nombre de sermons qui dépendent de l'hiver 403-404. Et d'autres qui, eux aussi, ont été prêchés hors d'Hippone et qui concernent souvent le schisme donatiste. Alors on a des attaques contre l'évêque Opta, on a des attaques contre le rebaptême, on a la mention de la conversion d'un évêque, on a voilà. C'est probablement plus tardif, c'est probablement plutôt de 406-408, mais il y a quand même un point commun avec les autres, l'autre bloc, c'est que ces sermons sont liés chronologiquement entre les années 403, fin 403 et 408, avec une prédominance de la polémique contre les... Alors que dans le premier cas, on avait plutôt une prédominance de la polémique contre les manichéens. Voilà. Ça n'est pas absolument homogène, ni dans un cas, ni dans l'autre, mais il y a tout de même une certaine unité thématique de chaque côté. Et je crois que ça apparaît si vous en faites une lecture suivie.
Très grand merci François. Alors, sont apparues plusieurs questions. Que nous apprennent, Anne-Isabelle Bouton-Touboulic, que nous apprennent ces sermons sur les relations d'Augustin avec son auditoire ou ses auditoires? Donc là, peut-être que Nathalie pourrait nous dire un tout petit peu quelque chose, si vous l'avez un peu évoqué, peut-être.
Oui. Dans ces 10 sermons, dans ce premier volume, sont très savoureux pour cela. Et de ma lecture, je me souviens qu'on découvre plusieurs indications très précises sur les assemblées, la disposition, par exemple, de l'auditoire dans l'assemblée eucharistique. Il y a d'ailleurs une très belle note complémentaire sur une réforme liturgique que Aurelius, évêque de Carthage, a mis en place. Augustin y fait allusion dans un de ses sermons. Il y a plusieurs petits traits très savoureux. Augustin fait référence à la fatigue qui commence à atteindre son auditoire parce qu'il prêche assez longtemps. Sur ce point liturgique, il y a quand même plusieurs notations très intéressantes dans ces sermons. Après, on a déjà abordé. J'avais axé ma présentation sur ce thème du langage très imagé d'Augustin. Ça, c'est sûr, il se met tout à fait à la portée de son auditoire avec toutes ces images, ces figures du Christ en particulier. Mais il y a tout plein d'autres belles images dans la prédication. Il y a des petites anecdotes que Augustin raconte. Il y en a une, par exemple, qui a fait l'objet d'une très belle note complémentaire, la note 15. Augustin et le pari de Pascal, c'est le titre de cette note. Donc, Augustin raconte une petite histoire d'un homme à qui on donne le choix d'emprunter deux chemins, une route plus rapide, mais sur laquelle il risque d'y avoir des brigands, et une route plus longue et ardue, mais plus sûre. Et donc, il s'appuie sur cet exemple pour exhorter ses fidèles à oser le pari de la foi. Je ne sais pas, peut-être ceux qui ont travaillé sur les sermons seront encore plus à même que moi de mettre en valeur les relations d'Augustin avec son auditoire, mais comme ça... Oui, est-ce que ça vous va?
Il est certain qu'en tout cas, le sermon d'Olbeau 2, à mon avis, donne un très bon exemple de l'aspect concret des relations avec l'auditoire et des difficultés. Mais bon.
Ah oui, avec le fameux chahut, là, je ne sais pas qui avait travaillé.
Et donc là, c'est Laetitia qui...
Ah ah, alors Laetitia. Ah, oui.
Je vois encore une autre question. Ces sermons peuvent-ils être témoins de l'utilisation des vieilles latines en Afrique du Nord à l'époque d'Augustin? Là, je pense que François aussi, c'est à vous de répondre. Il faut...
J'ai peur d'accaparer la parole et ça n'est pas bon. Il faudrait que Jérémy Delmulle ou Laetitia ou Isabelle interviennent. Enfin, en tout cas, je peux dire rapidement que oui, ce sont des témoins extrêmement importants dans la mesure où ces sermons n'ont pas été beaucoup copiés. Les citations bibliques y sont moins déformées par les copistes successifs qui, malheureusement, dans beaucoup d'autres cas, ont repris des leçons de la Vulgate. Ici, on a véritablement des textes en vieille latine et quelquefois, on a même plusieurs versions vieille latine pour le même verset. C'est le cas, par exemple, des versets du livre des Proverbes dont Nathalie Requin a parlé. Tout à l'heure. Vous savez, quand elle a parlé de l'Eucharistie et le sermon où on avait fait une lecture du livre des Proverbes. Eh bien, dans le même sermon, quelquefois, Augustin prend plusieurs variantes, plusieurs textes différents, probablement parce qu'il a un texte en mémoire et qu'il a un texte sous les yeux qui est le texte du lectionnaire de l'Église où il est en train de prêcher. De même, Martine Dulay avait montré de façon très intéressante, ça a été rappelé aussi, je crois, par Nathalie Requin, que dans un cas, Augustin exploite deux variantes alternatives, écarie et imputrescible, pour apporter deux éclairages différents sur le même verset de la Genèse. Donc oui, ces sermons apporte énormément de nouveaux sur l'utilisation des vieilles latines en Afrique et ils ont fait l'objet d'une publication systématique du père Bogart dans le colloque de Chantilly, je crois, et ça a été très très bien étudié, l'intérêt de ces textes pour les études bibliques. Voilà, je crois avoir répondu qu'on pourrait parler pendant des heures.
Merci François. Je vois encore une autre question. Ces sermons ont-ils une relation littéraire ou théologique explicite avec d'autres écrits attribués à Augustin? Qui souhaite répondre? Oui, Michel, merci. Il faut allumer ton micro, merci.
Oui, je peux dire un petit mot. J'ai fait allusion à titre d'exemple à des passages des sermons dans lesquels on trouve un développement important sur des thèmes qui sont par ailleurs fortement développés dans d'autres œuvres d'Augustin. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille poser la question en termes de relation entre les sermons et ses œuvres, mais au minimum, ça peut être très intéressant, très important de voir comment tel thème que l'on rencontre dans les sermons se situe dans la trajectoire qui conduit Augustin ensuite à développer les mêmes thèmes dans un ouvrage comme La Cité de Dieu, par exemple. J'évoquais les allusions aux deux cités dans un sermon, disons Jérusalem et Babylone. Évidemment, c'est nettement antérieur en tout cas c'est antérieur à la composition de l'ouvrage, du grand ouvrage La Cité de Dieu, mais c'est sûrement très intéressant de voir comment ce thème des deux cités apparaît déjà dans l'un de ces sermons d'Olbeau. Je crois que, de fait, il y a sûrement un lieu de recherche intéressant. Alors, peut-être que dans certains cas, on peut aller plus loin, on pourrait déterminer une influence possible, c'est-à-dire que, filiation, en quelque sorte, à partir du thème développé dans tel sermon et du même thème développé dans une œuvre doctrinale, dans un commentaire d'écriture d'Augustin, c'est possible.
Quelqu'un veut-il réagir pour compléter éventuellement la réponse de Michel ?
On peut simplement ajouter peut-être que justement, c'est tout l'enjeu de l'étude de ces sermons. On parlait tout à l'heure des questions de datation. Alors, l'authenticité de ces sermons n'a jamais été mise en doute parce qu'elle était confirmée déjà par leur présence dans l'Indiculus d'Hippone. Mais lorsqu'on édite un sermon attribué à Augustin ou qu'on attribue à Augustin, c'est en effet le travail du philologue que de comparer à la fois les co-occurrences d'idées et d'expressions, de mots, dans un texte qui est nouveau et dans le reste de l'œuvre d'Augustin. Pour notre chance, Augustin a beaucoup écrit et on a beaucoup conservé d'œuvres d'Augustin, et donc il est facile de multiplier les comparaisons. Et c'était justement l'un des principaux atouts de l'édition Princeps des Sermons d'Olbeau, qu'on perd, si on veut, en partie, qu'on réduit dans les notes de bas de page de cette édition, que de multiplier les parallèles littéraux, surtout littéraux, hein, qui permettaient justement de lister toutes sortes de ressemblances. Voilà. Alors François Delbeuf était, je pense, mais il me corrigera, était soucieux de ne pas prendre parti, hein, simplement d'indiquer des récurrences de mots ou d'idées. Et c'est à partir de ces apparats parfois épais qu'on peut mener une réflexion, notamment dans le cadre de la critique, dans le cadre de la datation du sermon. On disait tout à l'heure que la datation était ce qui posait le plus problème. Vous trouverez dans les introductions du volume de long développement dans chaque introduction, parce qu'en effet, il s'agit de s'interroger sur cette question qui a été posée plusieurs fois. Et à cet égard, les parallèles littéraux ont leur importance. C'est aussi, on l'a rappelé, un écueil, hein, puisque on connaît évidemment beaucoup mieux les traités bien mûris, publiés à une date que parfois on connaît parfaitement bien, et on a tendance à dire, voilà, co-occurrence de telle expression, de telle idée, de telle préoccupation d'Augustin dans ce sermon et dans cet écrit est une preuve de leur simultanéité, de leur concomitance. En réalité, il ne faut pas oublier qu'on prononce un discours plus vite qu'on écrit un livre. Augustin, qui improvisait ses prédications, laissait fuser les idées, mais ce que je veux dire, c'est que en multipliant les prédications, il pouvait arriver à peaufiner, à affiner une pensée qui ne prendrait corps dans ses écrits que bien plus tard. Et donc très souvent, lorsqu'on arrive à établir l'antériorité d'un sermon par rapport à un traité rédigé, on voit apparaître, comme ça en filigrane, quelques touches toujours d'une réflexion en train de se faire. Voilà. Mais il faut surtout penser à ce processus qui est processus du temps long, quoi qu'on puisse en penser à première vue. Voilà, simple petit ajout que je voulais faire.
J'ajouterais peut-être juste un élément, mais qui ne correspond pas exactement à notre volume, mais à un des sermons d'Olbeau. Je pense que le sermon d'Olbeau 30, bon, qui est à propos de Pélage, nous donne des éléments très importants pour comprendre les ouvrages contre Pélage et comprendre la chronologie de ces ouvrages. Enfin là, je pense que François, vous l'avez bien éclairé. Mais bon, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, une demande, mais qui sans doute, je ne sais si elle pourra être honorée. peut-on espérer une série d'autres conférences liées au sermon d'Olbo qui viennent de paraître et la présentation de chaque sermon? Merci en tout cas pour l'enthousiasme manifesté. Je ne sais pas trop, rien n'est exclu, mais disons que pour le moment, ce n'est pas à notre programme. Nous continuons notre travail.
Il y aura une série d'émissions à diffuser sur le site du Centre Sèvres.
Oui, Michel, merci.
Oui, je penserais bien une question, je ne sais pas si c'est pour Jérémy Demulle ou François Dalbeau, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre. Jérémy, vous rappeliez avec raison que ces sermons n'étaient pas dictés, n'étaient pas écrits, mais que ce sont des tachygraphes qui prenaient des notes. J'avoue que j'étais vraiment impressionné en lisant l'ensemble de ces sermons par la qualité littéraire du texte même. Enfin, vraiment, il y a quantité de formules, d'une remarquable concision, des formules bien frappées, des allitérations. J'en ai donné un exemple tout à l'heure dans mon intervention. Est-ce qu'il y a quand même des indices qui laissent penser que Augustin a pu quand même reprendre ses textes, les améliorer, ou est-ce que c'est son génie propre qui lui a permis d'emblée de parvenir à cette qualité littéraire sans qu'il y ait eu vraiment de réécriture? Peut-être que la réponse est difficile à connaître. En tout cas, je me suis posé la question. La qualité littéraire est impressionnante.
Je me permets. Je passerai la parole à François Dolbeau juste ensuite, que tout ce que je sais, crois savoir de cela, je le tiens de François Dolbeau, mais il me semble que on est à peu près certain de l'existence de cette pratique des tachygraphes prenant en note les sermons d'Augustin. Il faut peut-être faire la part entre les tachygraphes qui travailleraient pour Augustin, qui serait de son entourage et qui serait là pour simplement prendre en note les paroles du maître pour qui a besoin de les conserver, d'éventuellement les consulter, etc., de les garder dans ses archives. Et c'est bien pour ça qu'on en a conservé un très grand nombre. Et il y a aussi des tachygraphes qui viennent d'ailleurs, qui sont payés par des notables, qui, curieux d'avoir accès ou de conserver les paroles de cet autre bouche d'or qu'est Augustin, qui les commande en réalité. Et si on accepte l'existence de cette pratique-là, il n'y a aucun moyen, semble-t-il, qu'Augustin ait pu retoucher les textes qui ne sont plus revenus entre ses mains ensuite. Alors, ce que je ne sais pas, en revanche, c'est comment établir que certains, quels sermons ont été transcrits par des tachygraphes venus de l'extérieur, si l'on veut. Ça, j'ignore complètement. Mais est-ce qu'on peut le déterminer, François Dalbeau? Peut-être que pourriez-vous apporter des précisions?
Oui, enfin, non, je ne peux pas apporter de précision véritablement solide. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sermons qui ont été dictés, d'autres qui ont été entièrement improvisés, et c'était la norme. Et qu'Augustin avait l'intention de réviser toute sa prédication avant de mourir, afin d'arriver devant le souverain juge sans laisser d'erreur doctrinale dans ses œuvres. Car il pressentait qu'il allait devenir une autorité quasi biblique. Et donc il a cherché à tout réviser. Malheureusement pour nous, il a été interrompu dans son travail de révision au moment où il commençait à réviser ses lettres. Ce qui fait qu'en réalité, des trois volets de l'œuvre d'Augustin, les traités, les lettres et les sermons, seuls les traités ont été révisés dans l'ouvrage qu'on appelle Retractationis. Mais il me semble que dans certains cas, quelques sermons qui étaient sollicités par des amis d'Augustin, des mécènes, des gens qui collaboraient au financement de son scriptorium, certains sermons ont dû être révisés, dans la mesure où Augustin les envoyait à l'extérieur. C'est très probable, par exemple, que le sermon sur la Providence, qui n'est pas un sermon de Mayence, mais qui est un sermon que j'ai retrouvé ailleurs, ce sermon sur la Providence a été envoyé par Augustin, on le sait par une de ses lettres, à un de ses mécènes. Or, Augustin ne renvoyait pas d'œuvre, n'envoyait pas d'œuvre qu'il n'avait pas révisée. On le sait parce que on lui avait demandé le De Musica et il n'a envoyé que le livre 6 de ce De Musica parce que c'était le seul livre qu'il avait révisé. Et il le dit en autant de mots. Et donc on peut penser que s'il a envoyé le De Providentia Dei à ce mécène, c'est qu'il l'avait relu et revu. Comme il s'agit d'un thème philosophique sur la Providence, il a pu considérer que ce sermon était comme une espèce de traité. Mais je dirais que dans l'ensemble, Augustin n'a pas dû réviser ses sermons. Il y a un autre cas très intéressant dans les sermons qui ont été publiés dans ce volume, c'est le sermon sur la voix et le verbe. Parce que deux grands érudits belges ont montré, et je crois avec une quasi-certitude, que ce sermon est la forme élaborée, revue, révisée d'un autre sermon que nous avons déjà, où la même argumentation avait été formulée, mais de façon beaucoup plus maladroite. Et en comparant ces deux sermons, je crois que c'est le numéro 288 et le sermon d'Olbo 3 ou 4. Ils ont pu montrer, je crois de façon claire, que Augustin avait dû relire son premier texte et qu'il en avait aménagé, amélioré l'argumentation. Et qu'en quelque sorte, le sermon d'Olbo 3 représentait une seconde mouture d'une exégèse esquissée dans le sermon 288. Donc c'est un cas qui a dû se produire d'autres fois. Et c'est pour cela que Augustin a des archives, Augustin pratique l'art de mémoire, c'est pour ça que c'est très délicat de fonder des arguments chronologiques uniquement sur des parallèles textuels ou littéraires ou d'idées. Parce qu'Augustin se relisait.
Très grand merci, François. Il va me revenir la tâche de conclure, car il est presque 21h30 et nous avions décidé que cette soirée se terminerait à 21h30. Mais je ne veux pas conclure sans remercier tous les intervenants de cette soirée. Bien sûr, Michel Fédoux et Nathalie Requin qui nous ont présenté d'abord ces volumes. Mais bien sûr aussi Jérémy qui nous a bien expliqué comment, en quoi ces sermons étaient neufs et quel était notre travail en amont pour publier ces sermons. Et bien sûr, la contribution très importante de François Dolbo qui nous a éclairé beaucoup de points qui restent sans doute difficiles quand on n'est pas aussi averti que lui dans la connaissance des manuscrits, de la tradition manuscrite en général. En tout cas, un très grand merci aussi à vous tous qui nous avez suivis et je peux dire que vous venez d'un peu partout dans le monde, ce qui est extrêmement sympathique. Je précise que cette soirée a été enregistrée, qu'elle devrait être disponible dans le courant de la semaine prochaine sur le site du Centre Sèvres, sauf problème technique, mais je pense que ça devrait marcher et qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et je vous invite en tout cas à lire et à relire ces sermons qui sont vraiment passionnants à travailler et nous en faisons l'expérience chaque fois que nous nous réunissons pour préparer la publication d'un nouveau sermon. En tout cas, vous voyez tous les remerciements et un très grand merci à tous et un très grand merci à vous qui nous avez écoutés. Voilà, bonne soirée à tout le monde.
Merci.
Je suis désolée de devoir conclure. Voilà, bonsoir.